Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.
Louis, jour premier.
Les vertiges de l'amour sont partout sur le bout de la langue. On dit tomber amoureux comme on tombe malade. Un coup de foudre, comme une décharge électrique qui nous met à terre. La chute. C'est donc ça l'amour. Ça arrive soudainement, sans s'annoncer, pour tout remettre en question jusqu'à l'équilibre du monde. Soit ça fait mal, soit c'est ridicule. Mais il y a aussi des chutes heureuses. Celles qui nous font tomber à la renverse. Comme un éloge de l'inconstance. Et l'on se dit que le Larousse s'arrête là où le cœur commence. Je suis Camélia Jordana, mais aussi Adèle, l'héroïne d'Irrésistible. Dans cette série romantique disponible sur Disney+, mon personnage imagine la maladie d'amour, un podcast qui mêle témoignages amoureux et analyses scientifiques. Ce podcast, il prend vie dans vos oreilles aujourd'hui, avec de vraies histoires d'amour. Dans cet épisode, une histoire d'amour à perdre la raison et une chute sur le tard, car il n'y a pas d'âge pour tomber amoureux.
Je comprends pas ce que veut me dire mon corps. J'en parle à une copine. Et là, tout d'un coup, mais vraiment, enfin, la révélation, quoi. C'est le truc que je me cachais depuis 20 ans, tout d'un coup, ça me paraît évident. C'est d'une seconde à l'autre. Quand je suis adolescente et même jeune adulte, ma vie amoureuse est assez pathétique. C'est-à-dire que soit je rencontre des mecs à qui je plais pas, soit je sais pas montrer qui je suis ou que je suis amoureuse. Enfin, c'était toujours des histoires assez minables. Je me dis que je ne plais à personne. Je rencontre Bertrand, qui est ma première histoire d'amour sérieuse, qui est un ami d'amis, lorsque j'ai 22 ans. Et c'est un mec qui est sympa, qui est tout doux, qui est tout gentil, qui est... Je pense qu'on a des valeurs communes, et en plus, il est amoureux de moi. Il m'a demandé en mariage, peut-être au bout d'un an, je crois. Et forcément, comme je pensais que jamais personne ne me demanderait en mariage, j'ai dit oui tout de suite. En sentant que c'était pas une très bonne idée. Et je me rappelle que le jour du mariage, je me suis dit, si ça pouvait durer quelques années, ce serait bien. Mais je savais que ça pouvait pas marcher, parce qu'on était quand même très très différents. Ça, c'était en avril 95. J'ai senti, je peux pas l'expliquer, j'ai senti que j'avais envie d'un enfant. Vraiment, c'était un truc auquel je pensais tout le temps. Et donc, Colin est né début 97. Et début 98, il y a un nouveau collègue qui arrive dans ma boîte et dont je tombe amoureuse immédiatement. Autant Bertrand est quelqu'un de très gentil, très doux, autant Gaël, c'est vraiment le mec qui assure le mal, quoi. Et je sais pas pourquoi je suis tombée amoureuse de lui, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je suis vraiment tombée amoureuse de lui. Ce qui me plaît quand je le vois arriver, c'est son espèce d'assurance. C'est quelqu'un qui est pas très grand et en même temps, il est commercial et il a une espèce de force qui doit m'attirer. Au moment où il arrive, je sais que j'ai ma mutation pour revenir à Rennes. Donc je sais qu'on va se voir 2 mois et que après je rentre à Rennes et que lui reste à Lille. Donc l'histoire est faite pour se terminer très rapidement. Et je crois que c'est aussi ce qui me libère, j'avoue. Je m'ennuie dans mon couple. Il y a ce mec qui m'attire. Et je me dis, bon, allez, de toute façon, enfin, moi, dans 2 mois, je rentre à la maison avec mon fils et mon mari et on n'en parle plus. Donc, allez, on n'a qu'une vie et on la vit. On passe plusieurs soirées ensemble. Mais voilà, en disant, de toute façon, c'est la fin bientôt, quoi.
Marianne dit qu'elle tombe amoureuse de Gaël, mais qu'elle ne comprend pas pourquoi, que ça ne s'explique pas.
Olivia Gazalet.
Et ça, c'est le grand mystère dans la philosophie de l'amour. C'est comment on explique qu'on tombe amoureux ou amoureuse de cette personne-ci en particulier et pas d'une autre.
Philosophe.
C'est une question que je me suis beaucoup posée. Est-ce qu'il y a des raisons objectives de tomber amoureux ou est-ce que c'est inexplicable? Et qu'est-ce qu'elle a de spécifique, cette personne, pour que je l'aime et que je la désire, elle et personne d'autre? Et en fait, c'est une question très, très délicate. Moi, je trouve que c'est Vladimir Jankélévitch qui a donné pour moi la réponse la plus intéressante dans un livre qui s'appelle « Les vertus et l'amour ». Il répond par la tautologie d'amour, c'est-à-dire « je t'aime parce que je t'aime ».« Je t'aime parce que tu es ce que tu es ». C'est la réponse de Montaigne qui aime la Boétie parce que c'était lui, parce que c'était moi. Donc, ça veut dire que l'amour... C'est, comme le dit Jankélévitch, une préférence infondée, indiscutée, injustifiée, immotivée, autrement dit, arbitraire. Et c'est ce qui lui fait dire finalement, aimer, c'est déraisonner. On peut aussi tomber amoureux ou amoureuse de gens qui correspondent absolument pas à nos goûts. Qui n'est pas, c'est Proust qui disait, pas notre genre. Et lui, il parle de Swann, donc un des personnages importants de la recherche du temps perdu. La première fois qu'il voit Odette, dont il va tomber maladivement amoureux, ben, en fait, il la trouve pas terrible. Et donc, c'est ce qui me fait dire que l'amour, c'est jamais un calcul, mais c'est une création. En fait, l'amour, ça transfigure l'être aimé, même ça transfigure le monde. Donc, je t'aime parce que je t'aime.
Quand je rentre à Rennes, je continue à échanger avec lui, on se téléphone régulièrement. Il m'incite, mais j'étais tout à fait prête, il m'incite à quitter Bertrand. Et en juillet, je quitte Bertrand. Et donc l'histoire avec Gaël commence vraiment, sachant que lui habite à Lille. Mais moi, je trouve que c'est pas mal parce que dans la semaine, je suis avec Colin. Et puis, le week-end, je vis avec Gaël et ça me va très bien. Et ça dure comme ça pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, Gaël a sa mutation pour revenir à Rennes. Et donc, à ce moment-là, on vit ensemble. Je tombe enceinte très rapidement. Et on se rend compte que ce sont des jumeaux. Ça a vraiment été un cadeau parce que j'avais attendu 8 ans avant de me décider à avoir un enfant, enfin 7 ans, avoir un deuxième enfant. Et là, c'était le cadeau d'en avoir 2 d'un coup, alors que j'avais 32 ans. Donc, c'est vraiment un grand bonheur pour moi et pour leur père. Donc, Mathurin et Charlotte naissent en septembre 2004. Et en juillet, donc 2 mois avant, on s'était mariés. Gaël et moi... On donne vraiment, je pense, l'image d'un couple parfait, avec les enfants parfaits, la jolie maison, les petits chiens. Enfin, c'est vraiment la vie idéale. Je crois qu'on est très, très, très différents. Et j'ai essayé de me rassurer en me disant, mais on se complète, les opposés s'attirent, mais on n'a absolument aucun point commun, finalement, enfin, vraiment très, très peu. On n'aime pas les mêmes choses, on a plein d'idées différentes sur des valeurs politiques. Il y a vraiment très peu de choses où on peut se retrouver. On ment aux autres et on se ment à nous-mêmes. Et ça va bien, parce que du coup, c'est tranquille. Moi, j'ai perdu mes parents tous les deux, fin 2009. Je pense que ça a développé pas mal de trucs. Enfin, j'ai eu une période assez compliquée où je pleurais beaucoup sans savoir pourquoi. Quelques années après la mort de mes parents, je ressens le besoin de faire une psychanalyse. Parce que j'ai plein de choses à traiter, dont un psoriasis qui a commencé par la cheville gentiment et qui continue à prospérer. Et je prends conscience alors d'un truc que j'avais jamais oublié, mais que j'avais toujours minimisé en me disant « c'est pas grave, c'est pas grave ». En fait, c'est que mon père m'a touchée quand j'avais 17 ans. C'est mon corps qui me dit « voilà, il y a quelque chose à traiter et arrête de le cacher ». Enfin, la psychanalyse me permet de régler ça alors que mon père est mort, que je ne peux pas lui en parler, de me rendre compte que si c'était grave et c'était important. Et 2 ans plus tard, mon psoriasis est réglé et je commence à avoir des mycoses, mais sans arrêt. Des mycoses au vagin, à répétition, qui sont soignées, qui reviennent, qui sont soignées, qui reviennent. Je ne comprends pas ce que veut me dire mon corps. Et j'en parle à une copine qui, elle, est très réceptive aux signes. Et je lui dis, bah, Alice, qu'est-ce que ça veut dire? Elle réfléchit un peu, et vu que c'est au vagin, elle me demande si, par hasard, je ne serais pas lesbienne. Donc je lui dis, non, mais pas du tout. Je pars sur autre chose. Puis elle me redemande, quand même, je crois que je n'avais pas réussi à la convaincre. Elle me dit, mais tu ne serais pas lesbienne? Et je dis, mais non. Quand je suis attirée par des femmes, elles sont grandes, carrées, avec des cheveux courts. Je pensais vraiment la convaincre et mettre un point final à cette discussion. Et elle me dit, mais Marianne, mais des femmes grandes avec des cheveux courts, ce sont des femmes. Et là, tout d'un coup, mais vraiment, enfin, la révélation, quoi. C'est le truc que je me cachais depuis 20 ans, tout d'un coup, ça me paraît évident. Et je me dis, mais oui, je suis attirée par les femmes. C'est d'une seconde à l'autre. Enfin, je pense que l'impression, tout d'un coup, il y a plein de trucs qui s'éclairent. Et je me dis, mais oui, mais je me rappelle de toutes les femmes dont je suis vraiment qui m'ont attirée. Et je n'avais pas voulu le voir ou pas voulu donner de l'importance. Pourquoi je m'étais cachée le fait d'être lesbienne. Je n'ai jamais entendu dire le moindre mal des lesbiennes de l'homosexualité. Simplement, je n'ai jamais vu de lesbienne. Je n'en ai jamais rencontré. On n'en parlait jamais, on n'en voit jamais dans les films, on n'en voit jamais dans les livres, on n'en voit nulle part. Mais ouais, c'était juste pas une option, quoi. Je pense que j'ai réussi à gérer cette vie hétérosexuelle en m'investissant dans plein de projets. J'étais toujours militante de tout et j'ai été déléguée syndicale, je me suis convertie au catholicisme. J'avais toujours des tas de trucs à faire. Et je crois que ça me permettait de tenir le cap. Finalement, cette mycose me dit aussi que je ne supporte plus cette proximité physique et que c'est vraiment stop à cette relation. Je préviens Colin, mon fils aîné, 2 jours plus tard. Et sa réaction, ça a été « Ah ben, enfin !» Mais ouais, il n'était pas surpris. Il m'a rappelé qu'un jour, on était dans un troquet tous les deux et que je lui avais dit « Oh, je trouve la serveuse tellement belle, je voudrais la draguer !» Et c'est un truc que j'avais oublié, mais ouais, c'est pas étonnant. Et puis d'un autre côté, en fait, il est hors de question que je le dise à mon mari, quoi. Je me dis qu'il peut pas comprendre, et ce serait normal, puisque j'ai une vie d'hétérosexuel parfaite. Et puis à quoi bon dire à son mari « je suis lesbienne » alors qu'on vit ensemble, et puis que je vais pas te quitter, parce que je me sens incapable de le quitter, parce que j'ai peur du conflit. Je me sens pas armée pour gérer un divorce. Donc, quand je comprends que je suis lesbienne, et le premier truc que je fais, mais très rapidement, c'est-à-dire que dès le lendemain, je tape sur Google « meilleur site de rencontre pour lesbienne ». Et donc, je m'inscris. Bon, en fait, c'est mon premier acte lesbien, qui d'abord me permet de discuter avec des lesbiennes. Ça me conforte dans l'idée que je suis vraiment lesbienne, parce qu'il y a des tas de nanas que je trouve super belles, vraiment, et qui m'attirent, avec qui je discute. Ça n'a jamais été très loin, mais voilà, c'est vraiment fait de me dire « ouais, voilà, je suis dans mon élément ». Et aussi, parce que je sais que je ne quitterai mon mari que si je suis tombée amoureuse et que j'ai une relation qui m'encourage à me dire bah là on arrête quoi, on se ment plus, on dit la vérité. J'essaye de faire en sorte de ne pas faire du mal et du coup je peux être très maladroite.
Il est évident que là, on voit qu'il y a un problème avec la pression normative qui, évidemment, est très lourde. Il y a des injonctions qui pèsent sur les hommes et les femmes, mais aussi beaucoup sur les femmes, parce que traditionnellement, c'est à la femme qu'incombe, en quelque sorte, le devoir d'amour, d'aimer son mari, d'aimer sa famille, d'aimer ses parents. Est-ce que, en tant que femme, on peut s'autoriser à tout à coup dire, bah non, ça suffit, en fait, ce modèle ne me convient pas, ce n'est pas moi, je me mens à moi-même, je mens aux autres. La question que pose Rousseau, c'est est-ce qu'on aime un être pour ce qu'il est, ou pour ce qu'il représente socialement. Et ici, par extension, c'est est-ce qu'on va aimer quelqu'un pour ce qu'on peut construire socialement au vu et au sous de tous, et est-ce que c'est conforme à la norme, ou est-ce que je m'autorise à faire un choix qui est purement personnel et individuel. C'est vrai que le regard d'autrui, il est extrêmement puissant dans la construction du couple et dans la construction des relations amoureuses. Donc Rousseau, il va jusqu'à dire que souvent, on délègue aux autres la validation ou l'authentification de notre amour. Et cet autre, c'est le regard d'autrui, c'est autrui qui me juge et qui peut valider ou ne pas valider la relation que je suis en train de vivre. Et donc Rousseau va jusqu'à dire « il m'envie, donc je suis heureux, il me plaigne, donc je suis malheureux ou malheureuse ». C'est très difficile de s'abstraire du regard des autres parce qu'il est chosifiant, parce qu'il nous désigne notre place une fois pour toutes. Et donc arriver à faire ce travail d'émancipation du regard d'autrui, d'émancipation par rapport à la norme, c'est extrêmement courageux.
Ça fait 4 mois que je sais que je suis lesbienne. Et puis, mi-décembre, une amie nous invite à son réveillon. Et elle nous dit qu'il y aura un de ses potes qui a commencé à faire une transition de genre. Donc, on arrive à la soirée. Je suis avec mon mari. Et il y a autrement 2 couples. Plus donc mon amie qui nous a invités. Et puis, son pote Stéphane. C'est une soirée très sympa où on dîne, on fait quelques jeux, on s'amuse. Et Stéphane, on avait commencé à échanger sur un groupe Messenger que notre copine avait fait avec les invités au réveillon. Et on s'était marré tout de suite parce que c'est quelqu'un qui est drôle, qui a beaucoup d'esprit. Ça m'avait donné envie de le connaître plus. Je fais en sorte de m'installer à côté de Stéphane. Stéphane, qui est donc Emma dans sa transition, mais qui ce soir-là, par timidité, s'est habillé en Stéphane, hein, avec un jean, une espèce de chemise de bûcheron. Il a des beaux yeux bleus, des cheveux trop rares, mais jolis, un petit blond cendré tout mimi. Il fait 1m75, il est assez mince, et il a des grandes mains très fines de guitariste. Et donc, du coup, on a parlé de nos vies. Donc elle, à ce moment-là, elle est prof de guitare. Elle a commencé sa transition de genre depuis 1 an et elle en a très peu parlé. Elle en a parlé à ses meilleurs amis. Ses enfants ne le savent pas encore. Et elle en est à un stade dans la transition où elle peut très bien passer de Stéphane à Emma très facilement. Ce qui fait que la plupart du temps, en fait, elle est sous les traits de Stéphane. Elle ne vit pas sa transition au grand jour. Elle est divorcée depuis 8 ans, je crois. En fait, je la trouve très attachante. On fait des jeux, dont un quiz musical que j'avais préparé. J'avais mélangé de la variété internationale et de la chanson française. Et elle trouve des trucs dès les premiers accords. Et il y a un moment où passe Leila, qui est par Clapton, qui est vraiment une chanson que j'adore. Et bim, 3 notes, elle nous sort Leila. Et je la regarde à ce moment-là. Et j'étais tellement contente qu'elle ait trouvé si vite. On se regarde et je pense qu'elle a vu à ce moment-là que ça me faisait plaisir qu'elle trouve. Et donc, à la fin de la soirée, enfin, au milieu de la nuit, je pars, on se dit au revoir. Je sais qu'elle va repartir à Rouen. Ouais, je me dis, elle habite loin, quoi. Elle habite loin, on va pas pouvoir se revoir. Ça me fait chier parce qu'il y a, voilà, il y a quelque chose qui s'est installé et... Au-delà du rire et de l'humour qu'on peut avoir toutes les deux, il y a, voilà, je me dis bah, dommage. Dommage, et en même temps, enfin, je ne suis pas atterrée, quoi. Je ne me dis pas, mon Dieu, ma vie de femme est foutue. Donc le lendemain, donc le 1er janvier, Emma est rentrée à Rouen et elle m'envoie un message sur Messenger. En fait, elle vient d'apprendre que tu es lesbienne. Et elle me dit Alice m'a dit ce que tu es en train de vivre. Je ne crois pas qu'elle me drague, pas immédiatement, mais assez rapidement. Elle y va par petites touches, mais elle y va quand même, quoi. Je sens que je lui plais. Et très vite, en fait, on échange de façon très libre. Parce qu'il y a aussi cette proximité du fait que nos situations sont les mêmes. Et puis qu'elle comprend plein de choses. Enfin, parce qu'elle y est sensible, évidemment. Et avec moi, elle est très douce. Elle est très douce, elle est très compréhensive. Vraiment, enfin, elle me parle pour m'encourager toujours. Et elle me pose beaucoup de questions. Enfin, elle est très intéressée parce que je lui dis, parce que je vis. Elle est très à l'écoute. Je suis bien, quoi. Là, je suis bien et je suis moi. Et je me dis, ben, ça faisait longtemps que j'étais pas moi comme ça. Donc, on continue les jours suivants à échanger tout le temps. Je me dis, c'est le moment, il faut que je dise à mon mari que je suis lesbienne. Je voulais pas me dire honnêtement, je vais le quitter, mais je voulais lui dire que je suis lesbienne. Alors que c'était évident que c'était dans le processus, quoi. Et donc, un matin, 4 jours après ma rencontre avec Emma, j'envoie un message à mon mari, parce que je n'arrive pas à lui dire en face. Voilà, je suis attirée par des femmes, que techniquement, ça fait de moi une lesbienne. Et voilà, et que je suis prête à en discuter avec lui. Bon. Et en fait, je suis en train de partir, quoi. Mais aussi parce que je sais que je suis en train de tomber amoureuse d'Emma, et qu'elle est en train de tomber amoureuse de moi. Et que, voilà, la personne que j'attendais pour partir, elle est là, quoi. C'est évident. Même si on ne s'est rien dit de tout ça, je me dis, bah, c'est bon. Maintenant, je lui ai dit. Donc ce soir, on va en discuter et après, je pourrais dire à Emma que je l'aime. Comme si le fait d'avoir dit à mon mari, du coup, ça me libérait de toutes les contraintes du mariage. Et donc, le soir, je rentre. Mon mari qui dit rien. Et à un moment, il va fumer une clope un peu à l'écart, donc je vais le voir. Je lui dis, voilà, bon, bah, t'as vu mon message. Bon, le seul truc qu'il veut savoir, c'est si je vais en parler aux enfants. C'est une question que je me suis posée déjà. Et je me dis, mais à quoi ça sert de dire à mes enfants que je suis lesbienne, alors qu'en fait, je vis avec leur père, quoi, et que ça n'a pas vraiment de sens. Donc, voilà, le fait que je ne veuille pas en parler aux enfants, ça le rassure. Je pense que le fait que ça reste sous le tapis, c'est très bien, quoi. Je rentre dans la cuisine, et là, j'envoie un message à Emma pour lui dire, en fait, qu'elle m'attire. Et en fait, elle est très surprise, finalement, que je lui déclare mon amour aussi rapidement. Elle me répond aussi qu'elle est... qu'elle-même et qu'elle est attirée par moi. Enfin, c'est, ouais. Donc, on est quand même à 350 km l'une de l'autre. Et on décide, parce qu'on devait faire une fête avec nos copines communes du premier de l'an, et on décide de se voir là, et donc c'est 10 jours plus tard. Elle redescend près de Rennes et on passe une soirée ensemble. Quand on s'est retrouvés, c'était super tout de suite, quoi. Enfin, c'était à la fois très chaleureux, très enveloppant, très câlin et très doux.
Il y a un noyau universel dans l'amour qui est le tomber amoureux. Et déjà, on peut s'interroger sur pourquoi on dit tomber amoureux. On peut se demander pourquoi, alors que la sensation première du tomber amoureux, c'est l'idée d'une montée en puissance de tout notre être, pourquoi est-ce que la langue nous renvoie à cette idée d'un effondrement ? Cet événement extraordinaire se vit d'abord toujours comme un basculement, il y a une perte d'équilibre, il y a un ébranlement de toute la personne. En fait, ce qui tombe, c'est toutes les fortifications intérieures, tous les remparts que la conscience a patiemment érigés pour assurer sa protection. Dans le tomber amoureux, il y a une idée de capitulation. Je me rends. Je m'en remets à l'autre. Et pourtant, si l'amour n'était qu'une chute, ça n'aurait rien d'agréable, ça n'aurait rien de métaphysique. En fait, ce qui est magnifique dans le fait de tomber amoureux, c'est le moment où on remonte. C'est-à-dire où tout à coup, on tape avec son pied dans le fond de la piscine et puis il y a cette espèce de remontée miraculeuse à la surface. Et cette remontée, c'est littéralement une renaissance, c'est-à-dire qu'on renaît à la vie. Il y a quelque chose de l'ordre du réveil, de la révélation, de la régénération, de la guérison même. Bref, de la résurrection. En italien, il y a un très beau mot pour dire tomber amoureux. On parle d'innamoramento. Innamoramento, c'est, il n'y a pas de traduction à part énamourement ou énamoration. C'est l'idée de l'état naissant de l'amour, du choc amoureux, du début. Il y a un très beau livre du psychologue et philosophe Francesco Alberoni qui s'appelle justement Innamoramento e amore. Et en fait, lui, il dit, qu'est-ce que renaître? C'est d'abord se séparer. Et là, je trouve que c'est assez net dans cette histoire, c'est-à-dire l'amoureuse ou l'amoureux, il rompt avec sa famille, il rompt avec son monde, il rompt avec son passé, avec ses valeurs, avec ses croyances. Et ce qui est important et intéressant, c'est que sans cette composante destructrice, qui s'accompagne parfois de des pots cassés, il y a de la souffrance, Alberoni nous dit « la reconstruction d'un monde nouveau n'est pas possible. Il n'existe pas de passion amoureuse sans la transgression d'un interdit. » C'est ce qui lui fait dire que l'amour, et ça on le voit très bien dans cette histoire, je trouve, est une force révolutionnaire. C'est-à-dire que c'est un événement un peu explosif qui va introduire une discontinuité dans la temporalité ordinaire. Il y a un avant et il y a un après l'amour. Et c'est ce qui fait dire à Alberoni, le passé devient la préhistoire et la vraie histoire commence.
Donc là, c'est évident qu'il faut que je change de vie, c'est évident qu'il faut que je me déclare et que je fasse quelque chose d'honnête et que je ne reste pas avec mon mari. Et ouais, je trouve une maison autour du 20 janvier. Et là, je préviens mon mari que je vais partir. J'attends qu'il rentre un soir, les enfants sont couchés, et là, je lui dis, ben, je vais partir. Il est un peu surpris. Je vois bien qu'il n'est pas triste, quoi. Parce que notre couple marchait plus. Enfin, c'est faut quand même être honnête. Bon, donc il est, je crois qu'il est peut-être un petit peu vexé. Enfin bref, en tout cas, c'est pas le grand effondrement. Très vite, en fait, on parle de choses très concrètes, quoi, sur la garde des enfants. On est d'accord tous les deux pour que ce soit une garde partagée. La maison, je me doutais qu'il voulait la garder. Effectivement, il veut la garder. Toutes ces choses matérielles. C'est vraiment, enfin, je crois qu'au bout d'une heure, c'était plié, quoi. On lance le divorce tout de suite. Et à partir du moment où j'ai quitté la maison, j'ai plus jamais eu de mycose. À partir de ce moment-là, donc très vite, je déménage. Et puis, il est entendu que Emma vienne me rejoindre ou que je la rejoigne les week-ends où j'ai pas les enfants. Et je me dis, je vais pas leur dire tout de suite que j'ai rencontré quelqu'un. Je leur dirai au mois de juin. Et en fait, je me rends compte que quand ils sont là, ils sont la plupart du temps dans leur chambre, parce que c'est des ados, et je me rends compte que je suis vraiment hyper seule, finalement, quand ils sont là, et que, en même temps comme ils sont là, je peux pas trop téléphoner à Emma, je peux pas... Voilà. Du coup, j'ai décidé de leur présenter Emma bien plus tôt que ce que j'imaginais. Début mars, je les préviens que j'ai rencontré quelqu'un, et je n'ose pas leur dire, dans un premier temps, que cette personne est une femme trans. Parce que je trouve que ça fait beaucoup, quoi. Enfin, j'ai quitté leur père 2 mois plus tôt. Donc voilà, et donc je leur dis que j'ai rencontré quelqu'un. Ils prennent la nouvelle de façon vraiment très zen. Ils disent, bah ouais, ok. Voilà, donc une fois de plus, je leur mens finalement pour faire passer les choses, alors que l'homosexualité est vraiment pas un problème pour eux. Donc début mars, Mathurin et Charlotte rencontrent Emma, enfin Stéphane à ce moment-là plutôt. Et mi-mars, on est confinés. Emma est chez nous. On a vécu le confinement ensemble. Mathurin et Charlotte rentrent la semaine d'après, retrouvent Stéphane, et donc on continue sur Stéphane. Colin, je lui ai dit tout de suite que j'étais lesbienne. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Colin a fait toute mon éducation sur la transidentité. C'est-à-dire que c'est le premier qui m'a dit « Maman, on dit plus transsexuel, on dit transgenre ». Quand je lui ai dit « J'ai rencontré une femme trans », à aucun moment c'était un problème. Mais je me dis « Mais en fait, toute la société n'est pas comme Colin, tout le monde ne réagit pas comme Colin ». Pour Mathurin et Charlotte, je me suis posé beaucoup plus de questions. J'ai été les voir l'un après l'autre, hein, en leur disant, bah, en fait, il y a un truc que je t'ai pas dit sur Stéphane, en fait. Mais vraiment, ça n'a pas été un choc, quoi, du coup. Et quand j'en parle à Mathurin, il me dit, mais tu sais, River, c'est un garçon trans. Et donc, c'était son pote River, dont il m'avait toujours parlé, mais vraiment, enfin, il m'avait jamais précisé qu'il était trans, parce que c'est pas une information, quoi. C'est, voilà, c'est un garçon, point. Donc, le confinement, c'était le moment idéal parce que Emma avait jamais trop osé sortir en Emma. Elle me pique mes fringues, donc on lui met toujours des foulards pour que ça fasse plus féminin. C'est aussi pendant notre heure de sortie autorisée qu'elle a commencé à sortir aussi en Emma. Alors avec souvent des looks un petit peu androgynes, mais enfin en mettant des couleurs qui se voient rarement chez les hommes, des roses, des mauves, etc. Et un jean, mais voilà. Pour moi, c'est les premières fois aussi où je sors à la vue de tous avec une femme. Et en même temps, moi, je suis hyper fière. Je suis hyper fière. Enfin, il y a un côté transgressif et malgré tout assez original. Et je me dis, si j'ai rencontré Emma, c'est aussi la vie qui m'envoie un message de me dire, voilà, je vis avec cette femme, je suis lesbienne, et par moments, on se promène, et Emma n'a pas envie de s'habiller en Emma, elle n'a pas envie de mettre une perruque. C'est pas si simple que ça. Mais de se dire, voilà, ouais, je suis lesbienne, parfois, vous me voyez avec un mec, et point, quoi. Mais c'est toujours un combat, quand même.
Dans l'amour, il y a une notion de pari ou de risque inhérent à toute relation. Et c'est même aussi un risque, évidemment, pour une histoire beaucoup plus classique entre deux hétéros. Là, ça m'a fait penser à André Gortz, un philosophe français d'origine autrichienne. Il a écrit un très beau livre qui s'appelle « La lettre à D », qui est un tout petit livre qu'il a dédié à sa femme. Et il l'a écrit, genre il avait 85 ou 86 ans. Elle était très malade et ils ont décidé de se suicider ensemble parce qu'ils ne voulaient pas lui survivre. Pourquoi je pense à André Gortz ? C'est parce que André Gortz, avant de s'engager, il avait des objections de principe. Parce que comme c'est un philosophe marxiste, bah pour lui, le mariage, même l'amour, la conjugalité, c'était quelque chose de bourgeois. Et donc, il voulait pas s'engager. Et puis, il a demandé à Dorine, donc ils étaient très jeunes à l'époque, ils avaient la vingtaine, et il lui a posé la question. Qu'est-ce qui nous prouve que dans 10 ou 20 ans, notre pacte pour la vie correspondra encore au désir de ce que nous serons devenus ? Et alors moi, j'adore la réponse que lui fait Dorine, parce qu'elle est imparable. Elle lui répond, mais si tu t'unis à quelqu'un pour la vie, vous mettez vos vies en commun, vous omettez de faire ce qui divise ou contrarie votre union, et surtout, elle parle de la construction du couple. Elle dit en réalité, nous serons ce que nous ferons ensemble. Et ça signifie que l'amour, c'est pas un état et c'est jamais une donnée, c'est un agir et c'est un devenir. Parce qu'en réalité, les situations changent. Là, on voit bien que Marianne, elle a ses enfants, puis elle a plus ses enfants, et puis un jour, ils partiront. Donc, le réel, il est en constante mutation. Donc, ça veut dire que l'amour, lui aussi, il doit être capable d'évoluer, il doit être capable de se réinventer, d'épouser le mouvement général de la vie. Et là, dans le cas précis, il va falloir sérieusement qu'elle se réinvente, parce qu'en plus, avec cette histoire de transition, c'est encore plus important de réinventer. D'ailleurs, elles sont en réinvention permanente, puisque tantôt elle sort en femme, tantôt en homme, elle se prête les fringues, elle se cherche des looks, enfin, il y a quelque chose de l'ordre de la réinvention permanente. Et ce que m'avait appris ce très beau livre d'André Gortz, La lettre à D, c'est qu'on voyait bien que pour durer, il fallait parvenir à concilier des choses qui sont difficiles à concilier. C'est-à-dire, il faut concilier donc la liberté et la stabilité, le mouvement et l'enracinement, l'identité et le changement, ici c'est encore plus net que pour d'autres couples, la nouveauté et l'habitude, donc le raisonnable et le déraisonnable, le fini et l'infini. Et donc, là, je termine, c'est pas un philosophe, mais c'est le grand poète Rilke, dans les Lettres à un jeune poète. Il dit « L'amour est difficile. C'est là peut-être ce qu'il nous fut imposé de plus difficile, la tâche suprême, l'épreuve finale, le travail dont tout autre travail n'est qu'une préparation, parce que aimer, ça s'apprend. » Et donc, l'amour, ce serait en quelque sorte toujours un apprentissage, mais un apprentissage généreux de qui est l'autre et de qui je suis par rapport à cet autre et de comment je peux toujours essayer de la combler et de lui donner encore plus que ce que je reçois de cette personne.
Donc, le confinement s'est passé et c'était quand même aussi comme... Même si on n'en a jamais douté, c'était quand même... un peu un défi quoi, de se mettre à vivre ensemble 24 heures sur 24, parce que là, c'était vraiment 24 heures sur 24, alors qu'on se connaissait depuis 2 mois et demi. Et enfin, ça a conforté l'idée qu'on était vraiment fait pour vivre ensemble, parce que enfin, tout se passait bien. Ce qui fait que quand on a été déconfinés, on a décidé d'acheter une maison. Et donc, on s'est installé à 5 km de l'endroit où vivait mon ex-mari, parce que mes enfants étaient encore scolarisés, que c'était plus simple comme ça. Voilà, on s'est installé dans un petit bled. On s'est fait des potes très très vite. Enfin, presque tout le monde ne connaît Emma que sous le nom d'Emma. Et ça n'a jamais posé de problème. Et on a décidé, on s'est d'abord paxé, un an après notre rencontre, donc le 31 décembre 2020. On s'est marié le 16 avril 2022. On a fait ça à la maison, c'était pas hollywoodien, on était une quarantaine. Et il y avait tous nos enfants, et ça c'était génial. Et puis tous nos amis. C'était vraiment la fête dont je rêvais, avec de la musique, avec des gens qui se connaissent pas et qui se rencontrent et qui s'apprécient. Et c'était vraiment très sympa.
Cet épisode de La Maladie d'Amour a été tourné et monté par Antonella Franchini. Jérôme Petit a fait la réalisation, Bénédicte Schmitt le mix, chargée de production, Margot Pinel. Le titre du générique La Maladie d'Amour a été écrit par Michel Sardou et Yves Desca, composé par Jacques Revaux, arrangé par Yuxek. La Maladie d'Amour est un podcast imaginé par Clémence Madeleine Perdria, coproduit par Louis Média et Jour Premier, tiré de la série originale Irrésistible, disponible dès maintenant en exclusivité sur Disney+.
Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6€ sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.